BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Bruxelles a accueilli ce 12 septembre le premier sommet mondial sur la vaccination. Alors que la méfiance monte à l'égard des vaccins, que les fausses informations font des ravages sur les réseaux sociaux et que les systèmes de santé ne permettent pas toujours une bonne diffusion des vaccins, la couverture vaccinale mondiale stagne dangereusement selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. On en parle dans un instant avec une spécialiste de l'Institut Pasteur à Paris. Et puis on a aussi rendez-vous en Centrafrique où la méthode de kangourou est porteuse de beaucoup d'espoir pour les enfants nés prématurément. Restez à l'écoute de votre magazine santé jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus et soyez les bienvenus. Qu'est-ce qu'un vaccin ? C'est un microbe rendu inoffensif et qui est introduit dans notre corps. Alors même s'il ne nous rend pas malades, notre système immunitaire se défend quand même en fabriquant des anticorps pour neutraliser et éliminer ce microbe. Ce qui fait que si nous rencontrons un jour le vrai microbe, notre système immunitaire le reconnaîtra tout de suite et l'éliminera avant qu'il ne puisse nous rendre malades. Voilà pour simplifier comment fonctionne un vaccin. Selon l'OMS, la vaccination permet actuellement d'éviter 2 à 3 millions de décès chaque année, mais 1,5 million de décès supplémentaires pourraient être évités si la couverture vaccinale mondiale s'améliorait. Pourquoi est-ce si important que le plus de gens possible se fassent vacciner ? Élément de réponse avec Annick Opinel. Elle est historienne des sciences et travaille à l'Institut Pasteur, Louis Pasteur, pionnier justement de la vaccination.
Alors, elle doit l'être pour une simple raison. Si vous êtes vacciné, vous rencontrez la maladie, ça va, vous pouvez vous défendre. Mais s'il y a des personnes qui ne peuvent pas se vacciner, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils n'ont jamais rencontré la maladie ou ils n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner, soit parce qu'ils sont en traitement, donc tous ces gens-là ne sont pas protégés. S'ils rencontrent le virus, eux tombent malades. C'est une protection à la fois individuelle. Je me protège, mais je protège les autres. Je protège ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir été vaccinés ou qui ne peuvent pas l'être. Un jeune enfant, avant 9 mois, s'il rencontre la rougeole, ça peut être terrible. Donc, c'est simplement protéger les gens qui ne peuvent pas, dont le système immunitaire n'a pas connu encore le pathogène.
Et pourtant, ces dernières années, on rencontre de plus en plus de gens qui sont contre les vaccins. On les appelle les anti-vax. Comment vous expliquez cette augmentation de la méfiance ou ce renouveau de la méfiance ?
Alors, renouveau, j'aime bien le terme de renouveau parce qu'effectivement, il peut être ancien. C'était pour d'autres raisons quand le vaccin est apparu, effectivement, au 18e, 19e, mi-19e, qu'il y avait des méfiances. Là, le vaccin n'était pas sûr. Maintenant, ils sont complètement sûrs. Alors, dans les anti-vax, effectivement, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Il y a celui qui est vent debout contre les vaccins, qui est en général anti-science, de toute façon. Celui-ci, vous ne le ferez jamais revenir. En revanche, il y a toute une frange de la population qui est simplement hésitante, c'est-à-dire qui se pose des questions qu'elle aimerait savoir. Et elle est influencée par, effectivement, ce qu'elle voit écrire ou sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la caisse de résonance. Donc, effectivement, quand on n'est pas trop sûr et qu'on se retrouve avec un bébé, comme ça, on se dit, est-ce que je fais bien de le vacciner ? Donc, moi, je pense que c'est une appréhension qui est légitime. Il ne faut pas qu'elle se tourne en une espèce d'anti-vaccination. C'est ça, le danger.
Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux parents, notamment, qui s'inquiètent de toutes les réactions que peuvent provoquer le vaccin chez un nourrisson ?
Il y a deux choses dans votre question. Ça me donne l'occasion de dire que l'effet indésirable, la fièvre, la rougeur, la démangeaison, tout ça, c'est un effet indésirable. C'est un effet indésirable mineur. Ce qui fait peur aux gens, c'est l'effet indésirable majeur qui, dans le cas, par exemple, de l'hépatite, on avait craint à un moment qu'il y avait des sclérose en plaques. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est comme la rougeole et l'otite. Les études ont prouvé qu'il n'y a pas de lien. Ça n'existe pas. S'il y a des cas, ce sont des cas normaux dans la population, ou les générales qui seraient arrivés de toute façon. Donc il y a une espèce de confusion qui fait qu'effectivement, on va un peu confondre corrélation et causalité. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive en même temps que l'une est la cause de l'autre. Ça n'empêche pas qu'il faut non plus, il ne faut pas nier le fait qu'il y a des effets indésirables mineurs. Le vaccin est un médicament. Et comme tout médicament, vous voyez la notice de, je dis n'importe quoi, du paracétamol, vous voyez bien qu'il ne faut pas en ingérer 10 ans la journée. C'est un principe actif, donc forcément, il y a quelque chose d'indésirable. Mais en même temps, il faut les entendre, et je pense qu'il faut entendre cette inquiétude. Il ne faut pas la nier, et je pense jouer la transparence.
Il y a un autre argument qui est aussi souvent utilisé, c'est que les vaccins, finalement, sont un moyen pour les industries pharmaceutiques de faire de l'argent. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ?
Alors, je ne veux pas défendre l'industrie, parce que c'est pas sûr, nous sommes une institution de recherche fondamentale, ce n'est pas lié à l'industrie, ce n'est pas mon rôle de défendre l'industrie, seulement, il faut bien qu'il y ait des industriels pour fabriquer les vaccins, ça, et pour fabriquer les médicaments, pour fabriquer tout ce que les traitements anticancéreux, on a besoin des industriels. Je ne pense pas, et c'est pas, quand je dis je ne pense pas, c'est un euphémisme, ce ne sont pas les vaccins qui représentent la part la plus lucrative des revenus de l'industrie. L'industrie pharmaceutique a d'autres branches qui sont beaucoup plus rentables que le vaccin. Mais encore une fois, je ne vais pas défendre l'industrie, mais je vais simplement un peu désamorcer cette peur qui fait que ce serait le capital qui va dicter le sanitaire.
Sur notre site internet, dans la rubrique podcast de ce magazine, vous trouverez quelques pages de référence pour vous informer sur la vaccination et des réponses aussi aux questions que vous vous posez peut-être. dw.com/français, c'est notre adresse. On s'en va à présent pour la Centrafrique où la méthode de kangourou fait ses preuves et permet de sauver des milliers de nourrissons prématurés. Instaurée au sein du complexe pédiatrique de Bangui depuis 2010, plus de 1000 bébés nés trop tôt ont expérimenté cette méthode avec succès puisqu'ils ont aujourd'hui atteint l'âge scolaire. Les autorités médicales satisfaites des résultats sont en train de tenter l'expérience dans des villes de province où les besoins en soins pédiatriques sont criants. Le reportage à Bangui de notre correspondant Jeff Murphy-Barrès.
Dans cette unité encore appelée chambre kangourou, les bruits et les visites sont strictement interdits. La pièce comporte au moins 8 lits, dont 6 occupés ce jour de notre visite par chacune des mères kangourous. Un dispositif spécial, comme l'explique ici Dr Selo Sirena, médecin-chef de l'unité kangourou.
Dans les salles, les mères kangourous, il y en a lit individuel, il y en a chaise avec accoudoir. Tout ça, c'est pour que maman reste avec son bébé en confort maximal. Parce que mère doit rester avec bébé dans la poche 24 heures sur 24 heures.
Mais qu'est-ce que la méthode kangourou ? Anne Yadibert, maître en sciences infirmières, surveillante générale du complexe hospitalier universitaire pédiatrique de Bangui, explique.
La méthode kangourou, c'est la méthode peau à peau, c'est-à-dire le peau du bébé contre la peau de sa mère. Et la chaleur humaine, qui est comme une couveuse, va réchauffer l'enfant. La maman va alimenter son enfant et l'enfant va grandir vite pour sortir de la poche. Il faut que chaque jour, l'enfant ait au moins 10 à 20 grammes sur son poids. Les enfants qui sont mis en kangourou sont inférieurs à 2000 grammes.
Aujourd'hui, la République centrafricaine est devenue un pays pilote en méthode kangourou. L'expérience est en phase de décentralisation depuis 2018. Docteur Jean Chrysostome Goudi, directeur du complexe pédiatrique de Bangui.
Au niveau de l'hôpital, ça a prouvé son efficacité, sinon on ne serait pas aujourd'hui au stade de décentraliser. C'est qu'on est quasiment à pratiquement 90% des mères d'enfants qui utilisent cette méthode dans notre centre. Et la deuxième chose, c'est déjà la pérennité, parce que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'en est pas découragé.
Succès, oui, et cela est visible sur le visage des parents admis avec leurs enfants dans cette unité. Gracia est l'une des mamans kangourous internées ici avec son bébé depuis une semaine et demie.
Je suis venue ici parce que je suis enceinte de 7 mois. Et mon enfant n'a pas encore formé. Et
comment ça se passe?
Ça se passe bien. On doit laver 3 fois par jour. Et puis, quand on mange, on va enlever le bébé. On mange le matin, midi, soir. Et puis, on entretient le bébé bien. Sinon, il y a des microbes qui passent.
Et là, le bébé prend du poids?
Bien sûr, le bébé déjà prend du poids.
Vous êtes contente?
Oui, je suis contente.
Pour les autorités médicales, Cette méthode a un double avantage. Garder une relation naturelle entre la maman et le bébé et combler le déficit d'accès aux technologies plus coûteuses telles la couveuse. La méthode s'est révélée un succès car le taux de décès chez les bébés prématurés est passé de 30% à 17% aujourd'hui selon le personnel soignant. Dr Selo Serena, médecin-chef de l'unité Kangourou, explique tout le sérieux qui y est apporté pour pouvoir obtenir ce résultat.
Ici, il n'y a pas de visite des parents parce que les enfants prématurés très très fragiles, ils attrapent facilement une infection, n'importe quelle infection. Petite grippe chez visiteurs, ça peut devenir grave problème, grave infection chez bébé prématuré. C'est pourquoi dans les salles des bébés Kangourou et maman Kangourou, il n'y en a que deux personnes qui soignent bébé. À l'époque, c'était décès jusqu'à 30%. Maintenant, on a diminué parfois jusqu'à 17%.
Mais tout ne se limite pas qu'à l'hôpital. Un travail de suivi se fait même quand les parents sont à domicile. C'est ce qu'explique la surveillante générale, Andy Adibert.
Il y a le Kangourou à domicile, dont on appelle Kangourou extra-hospitalier. Donc dès que la maman est confiante à la méthode, elle va venir en rendez-vous ambulatoire et toujours en méthode Kangourou, on va le suivre jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Généralement, on parle de la famille Kangourou. Le papa peut porter aussi l'enfant en Kangourou, la tante peut porter l'enfant en Kangourou, les autres parents vont porter l'enfant en Kangourou à condition qu'ils soient sains de toute maladie contagieuse.
La chambre Kangourou du complexe hospitalier et universitaire pédiatrique de Bangui est aujourd'hui un centre pilote. 13 autres formations sanitaires à l'intérieur du pays sont formées à cette méthode. Un travail d'extension qui se poursuit. Le centre qui bénéficie de l'appui de l'UNICEF offre une prise en charge totalement gratuite aux parents. Jeff Murphy Barès à Bangui pour la Deutsche Welle.
Avant de refermer ce numéro, un mot encore pour vous encourager à écouter sur notre site la nouvelle série pour prendre soin de vous. Capsule Santé, c'est son nom, aborde sous forme de podcast différents problèmes de santé, le papillomavirus, la dengue ou encore l'obésité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine santé. D'ici là, portez-vous merveilleusement et restez à l'écoute de la DW.